Voix nue. Toute cette semaine, Nejma Bouakra rencontre Maggie Marin. Ce soir, le goût du désaccord. Maggie Marin, danseuse et chorégraphe. Votre compagnie n'a cessé de se déplacer d'un point de vue physique, Créteil, Lyon, centre chorégraphique de Rieux-la-Pape, Toulouse, et de se déplacer également au sens figuré. Car si vos pièces résonnent entre elles avec des résurgences plastiques, des formes, des masques, maybe Waterzoy, des costumes qui tissent des proximités, votre travail passe par la discontinuité, pas d'unité formelle, mais des à-coups, des virages, une grande prise de risque. De longues séquences ou des vignettes, une fugue élégante des danseurs en cavale, point de fuite, ou simplement assis derrière un pupitre, de la danse, parfois de la mascarade, jusqu'à l'épuisement ou l'enthousiasme retrouvé. Vous voilà, d'école en théâtre, en centre d'art, en centres sociaux, en centres chorégraphiques, nationaux, jusqu'à l'opéra. La recherche est partout. Il faut juste du temps, un lieu pour faire surgir ces forces diagonales résistantes à l'oubli. Phrase d'Anna Arendt que vous aimez citer. Bonsoir, Maggie Marin.
Bonsoir.
Le burlesque n'est jamais bien loin dans vos pièces. Visage emplâtré, maybe, décor disgracieux, les mégères dans Cendrillon, l'empêchement est mis en jeu donc à l'opéra, dans le sacro temple de l'exactitude, là où l'erreur est quasi indélébile dans une carrière. Être gauche, c'est intéressant, être gauche, cela se danse.
Bien entendu, c'est même ce qu'il y a le plus intéressant, la gaucherie. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est aussi... quelque chose qui... la fragilité humaine, en fait, la maladresse, quelque chose, la gaucherie est quelque chose qui fait rire, certes, mais qui aussi attache. Quelque chose qui est tellement parfait, on ne sait pas bien comment le regarder, en fait. Je pense que je suis particulièrement sensible à ces choses qui n'y arrivent pas vraiment.
Mais peu à peu, on sent aussi dans votre travail que la joie, que l'humour s'installe aussi. Par exemple, Salve, je crois que c'est 2010 la date.
Oui, c'est ça.
C'est assez récent. Cela peut rappeler certains comics américains, c'est une sorte de panique dans la salle à manger.
Oui, c'est ça, pas une panique, c'est une...
tourmente.
Une catastrophe.
Oui. Là, vous travaillez avec les codes populaires. Il y a un petit peu du mauvais dîner de famille, tout vacille, les couverts, les valeurs, une statue de la liberté qui se casse comme un vase.
Oui, c'est une pièce qui joue sur le tragique, mais qui à la fois, comme j'aime bien le sentir, en fait, ne dramatise pas et ne donne aussi beaucoup d'énergie, en fait. Une façon de traiter le tragique à la façon des burlesques, justement, où au lieu de sortir complètement impuissant, on sort de là avec beaucoup d'énergie. Ça me semble très important de renvoyer ça chez ceux qui regardent.
Dans votre travail, des réminiscences, dans Salve peut-être, des tonalités de la guerre civile espagnole, des murs de Prague, mais également par exemple dans votre pièce nocturne plus récemment, qui colporte des images de la Tunisie, de la révolution tunisienne.
Oui, tout ça en fait, tout ce fond historique en fait, tout ce qui est plus ou moins récent, tous ces moments de souffrance des peuples aussi et de lutte acharnée pour la liberté, l'égalité, enfin tout ce qu'on essaye quand même de préserver qui est de plus en plus mis à mal en fait par le monde tel qu'il va. Enfin cette question de l'histoire elle, sur laquelle repose notre présent aussi, elle me hante en fait. Oui.
Et là aussi, peut-être que vos danseurs interprètes interviennent, non? Ils ont peut-être des pensées enfouies qui se révèlent, des songes qui se révèlent au travail, puisque certains sont grecs, certains viennent d'Amérique latine, certains sont tunisiens.
Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Je pense qu'une pièce comme Nocturne, c'est vrai que la Tunisie et la Grèce étaient très présentes. Bon, il se trouve que l'actualité, c'était en 2012, donc c'était l'actualité était très présente, mais il y avait aussi ces deux personnes, Caïs et Daphné, qui venaient de ces pays-là et qui travaillaient avec nous. Donc forcément, c'est quelque chose qui suinte, en fait, dans le travail.
Vos plus féroces détracteurs vous reprochent de parler de la tarte aux courgettes et de la mondialisation.
Oh ben oui, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas lu ça, mais bon, sûrement, il y a bien plein de choses, oui.
De travailler avec les restes, des images un peu trop ordinaires. Vous, c'est ce qui vous intéresse?
Ben oui, enfin, je sais pas quoi dire, là.
Vous dites que vous aimez travailler justement sur le méconnu. Vous prenez, je crois, Michaud, je ne sais plus dans quelle intention, note d'intention d'un de vos spectacles. Je voudrais dévoiler le normal, le méconnu, l'insoupçonnable, l'incroyable, l'énorme normal.
Oui, c'est-à-dire porter un regard aussi d'observation aussi et de peut-être... sur les choses qui passent toujours à l'as, en fait, parce qu'on est occupé à plus loin, en fait, et qu'on n'est pas dans le présent de ce qu'on est en train de vivre, et de voir dans le détail d'un visage, d'une façon de marcher, des choses qui en disent long, en fait, sur ce que la personne est en train de vivre à ce moment-là, même si on n'a pas les détails de son histoire, évidemment, mais on voit bien... Enfin, nos corps et nos visages sont toujours expressifs, en fait. Ce temps pris pour l'observation des êtres et des paysages aussi, en fait, je trouve que c'est très important. Enfin, pour moi, en tout cas, et de plus en plus.
Vous travaillez aussi sur les phrases ritournelles, hein, sur ces phrases comme ça qui reviennent, qui se répètent presque en nous à notre insu. Il faudrait peut-être éteindre le gaz, ou je ne sais pas, mais...
Ça, c'est vraiment, ça, pour le coup, c'est vraiment passe-moi le sel, quoi. Mais je trouve que Beckett fait ça aussi. Prend des mots d'une simplicité incroyable et, enfin, des mots que tout le monde peut saisir, quoi. Et qui sont presque très utilitaires. Et avec ça, en fait, il arrive à parler de notre condition humaine d'une façon remarquable, incroyablement forte. Donc c'est à partir de ces petites choses-là que j'aime bien travailler et leur donner une amplitude.
Umwelt, pièce retentissante, qui veut dire en allemand
ben le milieu, enfin environnement, mais en réalité l'Umwelt c'est l'entour, en fait, le milieu dans lequel on vit, en fait. Le milieu au sens milieu animal, vous voyez, c'est Uexküll, en fait, cet éthologue allemand, qui a fait un magnifique bouquin qui s'appelle « Comportement animaux et comportement humain » et dans lequel il décrit l'Umwelt de la tique, l'Umwelt de la pieuvre, du poulpe, de l'escargot, de l'abeille. Donc ce sont des milieux en fait environnants qui se côtoient constamment et parfois en s'ignorant, mais qui sont tout le temps coexistants. Et ça, je trouve, c'est très fort aussi... comment, en fait, certaines fonctions pour un être vivant, en fait, ne sont pas celles de l'autre être vivant qui est à côté. Et ça, je trouve très beau aussi.
Pourriez-vous nous décrire le plateau de Umwelt ? Il est quasi nu avec 9 portes, c'est ça ?
Oui, peut-être bien 9 portes, des fois 10, ça dépend. 9 interprètes. 9 interprètes, donc ce sont des panneaux à peu près de, je sais pas, 60 centimètres. Des panneaux de miroirs, en fait, qui laissent des espaces visibles de passage, en fait. Et ils sont posés sur une profondeur. Il y en a plusieurs, il y a 3 ou 4 rangs en quinconce, de façon à ce que tout l'espace, en fait, soit bouché par ces panneaux de miroirs, en fait. Et puis, il y a ces guitares devant de Denis Mariotte avec... 3 guitares et cette corde qui passe au travers des 3 guitares et qui produit le son, qui après est retraité sur un ordinateur par un ingénieur son. Et puis beaucoup de vent aussi. On a des ventilateurs qui se mettent en marche dès le début, donc il y a une espèce de bourrasque. Et comme les panneaux sont aussi fixés au sol, mais sont très souples, avec le vent, en fait, ils n'arrêtent pas de vibrer. Donc ça donne un horizon vibrant et une sorte de tempête qui passe, quoi.
Oui, une rafale traverse la scène.
Oui. Ouais.
Les interprètes, vous les avez conçus un petit peu comme des numéros qui vont se croiser, c'est des combinaisons. Hein.
Oui.
Vous multipliez les rencontres de façon arithmétique et ils se croisent en diagonale entre ces portes.
C'est ça, oui.
Un flux d'air permanent, des apparitions, des disparitions, les présences sont altérées un petit peu par la variation, la répétition, et des scènes justement ordinaires, un peu ordinaires. On porte un vase, un chapeau.
Tout à fait, oui. Des activités humaines, tout ce qu'il y a de plus basique, en fait. Manger, porter, s'habiller, voilà, des choses très simples.
Offrir un bouquet.
Voilà, qui se décline de 10 000 façons. Mettre un chapeau.
Chacun s'y reconnaît. C'est des gestes que nous faisons presque tous.
Oui, oui. Et c'est marrant aussi, c'est comment le regard, en fait, de celui qui regarde, en fait, change selon la façon, les habits que celui-ci porte. La même personne habillée en bleu de travail, habillée en curé ou habillée avec un costume noir et une cravate, ça change totalement ce qui a déterminé l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'on voit, c'est la même personne, et pourtant, ce que nous en voyons est totalement différent. C'est pour ça, c'est très important aussi, dans Umwelt. Cette espèce de chose qui fait que, de toute façon, on pense toujours quelque chose de quelqu'un qu'on voit. Et c'est ce qu'on voit, donc c'est sa façon de s'habiller, sa façon de bouger, sa voix, comment sont ses mains. On se fait tout un monde à partir de choses très apparentes, en fait. Ce qu'on se fait comme image est totalement différente.
Il n'avance pas, il y a une sorte de seuil. Quelques pas, c'est ça? Quelques pas. Et ils repartent.
Ils ne font que passer. Ils ne font que passer, et chaque activité, en fait, est déclinée de beaucoup de façons, de multiples façons, et change. Après, c'est vrai que ça demande une certaine observation, parce que ça ressemble à peu près à la même chose, sauf que c'est pas tout à fait la même chose, et c'est là que l'observation, en fait, la capacité d'observation est demandée, en fait, au public.
Public qui, au début, ne comprend pas. C'est la présence de la mort, de la disparition. Qu'est-ce qui fait, tout à coup? C'est ce jeu sur l'ordinaire qui se répète, qui choque. Comment est-ce que vous comprenez cette première réaction du public?
Je n'ai pas besoin de la comprendre. Elle m'est expliquée tout de suite, puisqu'on me crie « Vive le ballet !» Donc, je la comprends immédiatement. Et je vois qu'il y a une grosse réaction dans le public... pour moi, assez conformiste et conventionnel, qui fait que voilà, il y a une forme de censure qui s'exerce sur des choses qui ne correspondraient pas à ce que ces personnes croient qu'est la danse, par exemple, qu'est ce travail qu'on fait. Donc, du coup, là, il y a une vraie lutte, en fait. Je pense qu'il y a de la lutte, oui. C'est politique, dans ce sens-là. Parce que, du coup, c'est comme imposer une certaine vision des choses, une norme qui devrait être ceci, la danse devrait être ceci ou cela. Un artiste ne devrait pas, ne pourrait pas se permettre de... Enfin, il y a la notion d'effort là-dedans, il y a la notion de mérite, il y a la notion de beaucoup de choses qui sont mises en jeu, en fait, et qui demandent à être vraiment sauvées, en fait. Pas sauvées, mais très débattues.
Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas comprise, parce que votre travail est d'une extrême précision. Les danseurs, quand ils sortent donc de ce... quand ils font un pas en arrière et qu'ils sont donc derrière le seuil et derrière les portes et portiques, il y a une sorte de coexistence, il y a une conduite très précise. Leurs pas sont millimétrés pour qu'ils puissent s'aider les uns les autres. Donc il y a une conduite au sol, certains ont certaines cartes sur lesquelles est indiqué les mouvements qu'ils doivent opérer. C'est une extrême précision, c'est un travail d'orfèvre.
Absolument, c'est une horlogerie, oui, c'est vrai.
Et ça, ils ne le voient pas. Les spectateurs ne le savent pas.
Non, mais parce qu'ils ont l'habitude de la télé aussi. Donc, dès qu'il n'y a pas d'événement, alors ils sont totalement démunis. Ils sont là, ils regardent, ils disent « mais il ne se passe rien ». Alors, c'est comme si on regarde la mer et on se dit « il ne se passe rien ». Ben oui, c'est vrai, il n'y a pas tout d'un coup une baleine qui sort de l'eau, quoi. Et ça les déstabilise très fort. Ils viennent voir des choses repérables, qui les confortent, qui leur racontent une histoire, comme celle qu'ils ont envie d'entendre et de voir. Donc c'est beaucoup de manque de curiosité et de peur, en fait, je pense.
Vous êtes en colère, Maggie Marin. Juste après cette pièce... Vous dites un petit peu au spectateur, vous en voulez du spectacle, je vais vous en donner, et c'est ha, ha, ha. Mm. C'est violent, ha, ha, ha. Il n'y a pas de quoi rigoler, éclat de rire, arrête, tu vas nous faire rire, tu devrais avoir honte, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et au milieu des blagues racistes, antisémites, voilà, enfin tout ce qu'on trouve.
Sexiste,
voilà. Vous avez pensez cette pièce au métronome, hein, c'est-à-dire là aussi vous êtes en chef d'orchestre et vous rythmez les ha 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 grinçants, les il faut savoir s'amuser, ça fait du bien. Qu'est-ce que vous dites au spectateur là ?
Je me venge. Je me venge sur toutes ces choses qui ont tellement de succès, qui sont en dessous de la ceinture, qui parlent des gros seins des femmes et qui font plein d'argent avec ça parce que les gens achètent les DVD et puis vont voir les spectacles et les salles sont pleines de ces humoristes minables qui racontent des blagues plus horribles les unes que les autres. Et donc je suis très en colère, oui, de ce succès-là.
Et vous faites asseoir vos danseurs, ils sont derrière des pupitres.
Oui, tout à fait, oui.
Donc le spectateur sait parfaitement qu'on est en train de lui proposer une danse-performance qui lui est vraiment adressée. Les danseurs sont assis et rient.
Tout à fait, oui.
Grince, enfin, ricane.
Oui. D'abord, ils viennent pour performer, quoi. Enfin, ils viennent, ils s'assoient comme un groupe de chanteurs, en fait, viendrait exécuter une partition musicale. Et ça commence par le contraire de quelque chose qui serait savant, c'est-à-dire par un fou rire. Et ensuite, ça s'enchaîne sur des blagues, sur des choses de plus en plus. Enfin, tout ce qui fait nos petites soirées, les petites soirées entre amis, où c'est que des questions de pouvoir qui sont en jeu entre les uns et les autres, que des petites réflexions sur les femmes des uns et les femmes des autres. Enfin, des choses que je trouve affreuses.
L'atroce troisième degré, c'est
ça ? C'est ça.
Vous nommez, lorsque vous vous adressez aux interprètes, vous leur dites, vous êtes là, vous êtes ces lamentables âmes en peine.
J'ai dit ça ?
En répétition, mais oui, certaines de vos répétitions sont filmées.
Oui, peut-être.
Il
oui.
faut que ça erre, il faut que ça erre, vous leur dites.
Oui. Ouais, c'est ce que je dis dans les répétitions, c'est ce que ça me fait comme sensation de les écouter, en fait.
Et peu à peu, les protagonistes s'écroulent sur leur chaise.
Oui, sur la fin, en fait, ils s'écroulent, ils finissent par s'écrouler, parce que pendant toute la pièce, on a 60 mannequins sur le plateau, avec des chaises qui se cassent, et donc des poids qui tombent, et qui font chuter et le mannequin et la chaise qui se casse. Et en fait, ça fait rire tout le monde. Ça, c'est vraiment burlesque. Pour le coup, quelqu'un tombe et on rigole, quoi. Mais sauf que ce rire-là est vraiment le rire de la peur, en fait. Donc oui, c'est, à la fin, c'est eux-mêmes qui s'écroulent d'une certaine bassesse, en fait. D'une image même qu'ils n'arrivent pas à rehausser les uns des autres. En fait, c'est quand même le monde qui... c'est le monde des gagnants, c'est le monde de ceux qui s'en sortent encore, de ceux qui sont prêts à toutes les compromissions pour maintenir leur niveau de vie, enfin tout ça. Et qui achètent les DVD de ces humoristes affreux qui n'arrêtent pas de se servir des fragilités des uns, des autres, des étrangers, des femmes.
4 ans plus tard, vous jouez de nouveau Umwelt et Ha Ha Ha. L'un après l'autre, hein, vous décidez ça. Et ça se passe très bien. Peu à peu, ça se passe de mieux en mieux, la réception. Il faut un petit peu de temps.
Oui, effectivement, Umwelt, ça a été un peu dur. Mais en fait, ça a été très vite remplacé par AA, on a eu aussi des problèmes. Et puis Tourba, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes quand même assez longtemps. Ça s'est un peu calmé depuis 5-6 ans. Mais cette époque-là, l'avant Sarkozy, en fait, hein, pardon. Hein, et les années Sarkozy ont été très, très dures. Enfin, la France décomplexée, ça se sentait dans les salles de théâtre, vraiment.
Est-ce que c'est utile, finalement, de parler de temps en temps au spectateur, à la personne qui est assise là, si elle n'est pas de mauvaise foi, en tout cas ?
Oui, bien sûr. Moi, je pense que tous les axes de partage, en fait, sont importants, même si ils ne sont pas... parce que c'est aussi qu'on finit par atteindre un endroit de peut-être de conflit, de réel conflit ou pas. Ça dépend, mais je pense que C'est une façon, c'est comme travailler sur des ateliers, c'est une autre façon d'aborder le travail. C'est aussi tout, c'est, ça fait partie de différentes façons de rentrer en relation, en fait.
Vous avez le souvenir ou pas d'un moment, justement, par rapport à une pièce où vous expliquez votre intention et tout d'un coup, peut-être, qu'un chemin se fait pour le spectateur de compréhension?
Mais c'est possible, bien sûr, c'est possible que ça arrive, ça. En général, les moments de rencontre, hein, c'est rare qu'on ait les gens qui n'ont pas apprécié le disent pas tellement que ça. En fait, on a surtout des compliments quand même, parce que c'est un contexte public. Mais ça m'est arrivé effectivement d'avoir à discuter un peu avec des gens qui n'avaient pas saisi, et c'est toujours bien.
Et quand vos pièces circulent à l'étranger, est-ce que les rencontres sont différentes ?
Je pense que oui, que quand on... Par exemple, la pièce « Les applaudissements ne se mangent pas », c'est une pièce quand même qui est posée sur l'Amérique latine et sur son histoire. Donc aller avec ça en Argentine, au Chili, au Brésil, au Mexique, avec une pièce comme ça, c'est vrai que le rapport au public est totalement différent. Les gens sont à la fois très enthousiastes. Une pièce qui n'a pratiquement pas eu... enfin, finalement, Benjamin Millepied l'a prise à l'Opéra de Paris, mais une pièce qui a été assez ignorée, en fait, en France, au Brésil, enfin, en Amérique latine, a eu beaucoup, beaucoup d'écho, vraiment, et de très, très belles discussions avec les gens du public, oui. Donc, c'est pareil. On joue Maybe au Japon en 84, je crois. Et là, on a une magnifique phrase au milieu d'un silence d'un homme qui crie « Ah, ils font comme nous, eux aussi !» C'était au moment où il y avait le moment où ils se masturbent, en fait, tous. Il y a un moment donné où les interprètes jouent à ça. Et tout à coup, on a cette phrase « Ah, eux aussi, ils font comme nous !» J'ai trouvé ça, c'était génial, quoi. Voilà, le corps, parfois, ce sont des pièces, ces pièces-là, en fait, que ce soit les applaudissements ou Maybe ou Umwelt, d'ailleurs, où il n'y a pas trop de texte, où il n'y a même pas de texte du tout, ou très peu, qui sont quand même des pièces qui parlent directement au corps des autres, quoi. Ce qui n'est pas tout à fait le même rapport quand il y a trop de texte par rapport à l'étranger, quoi.
Et puis, aux États-Unis, en Angleterre, on peut dire, on peut voir sur des affiches « funny »,« corsif », »,« astounding », c'est étonnant. Je veux dire, il y a une réception aussi très différente aux États-Unis.
Ça, c'est de la com', quoi, enfin.
Ah oui, d'accord.
Bon. Enfin, c'est comme ça que je le prends. J'ai déjà vu tellement de choses complètement aberrantes s'agissant des pièces... d'une année sur l'autre, un qualificatif totalement pour Umwelt, par exemple, un refus total de la pièce, et par le public et par les gens qui nous avaient engagés, d'ailleurs, qui nous avaient programmés, et puis un an après nous reprogrammer vu le succès, avec des fantastiques, avec des choses comme ça. C'est ça aussi, le monde de la communication, c'est vraiment... c'est très, très dur. C'est très dur, la façon dont on fait la promotion, en fait, du travail en fonction de... Ben, pour toucher le maximum de personnes, pour faire du chiffre, pour tout ça, quoi. On est là-dedans, quand même.
Et comment, vous, Maggie Marin, avec votre notoriété, vous faites avec ça? Est-ce que vous pouvez contourner ces règles-là actuelles? Est-ce que vous pouvez faire des choix, refuser tel type de pratique, aller vers une autre pour une diffusion qui vous corresponde mieux?
On essaye. Il y a des dérives incroyables sur la présentation des pièces avant même qu'elles arrivent dans les théâtres ou dans les endroits où elles vont jouer. Des approximations, des espèces de... On fait un paquet cadeau d'une chose comme ça, sans regarder ce qu'il y a dedans. C'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup d'attention, on le fait, mais parfois des choses nous échappent, oui, bien sûr.
Mais vous ne pouvez pas passer outre ces relais de diffusion?
Mais non, parce que sinon on n'y arrive plus, on n'y arrive pas, oui. Après, il y a des limites à tout, hein.
Et en même temps, vous avez créé Ramdam, un centre d'art du même nom que l'une de vos pièces, en 1997, et cela avec vos propres fonds, pour une partie, vos droits d'auteur. C'est un espace refuge. Qu'est-ce que c'est Ramdam ?
Ben, à l'époque où je l'ai acheté, oui, c'était vraiment pour un poumon, en fait, en me disant, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un endroit où on pourra travailler sans avoir besoin d'aller quémander à droite et à gauche un espace de travail. Donc c'est vrai qu'au départ, ça a été ça, oui. Mais ça a toujours tout de suite été pensé comme lieu de travail. C'est un lieu, je disais, c'est un poumon, c'est un refuge, c'est un endroit où des artistes peuvent venir travailler, des artistes venus de toutes sortes de disciplines, des arts plastiques, du théâtre, de la musique, de la danse, et dans lequel aussi on accueille des étudiants, des jeunes professionnels pour transmettre des ateliers, des choses. Donc c'est un lieu qui est habité par des artistes et qui est pensé par des artistes aussi. Pour faire peut-être signe que la danse est un art.
Plus de danse, uniquement danser, une danse qui se danse différemment, peut-être, au bord de la performance, d'autres arts. Plus de spectateurs prédestinés, c'est pas facile la rencontre.
Mais si, peut-être, justement, parce que les choses n'étant pas tellement déterminées, finalement, et que ça ouvre, justement, c'est peut-être ça qui énerve beaucoup certaines personnes du public. C'est qu'on n'est pas vraiment dans de la danse telle qu'on pourrait dire oui, alors c'est vraiment des danseurs et ils sont forts et on n'est pas non plus dans le théâtre. Et
ni dans l'efficacité.
Oui, et puis on travaille aussi avec des couleurs, avec de la lumière, avec des durées, donc on ne peut pas mettre ça dans une case. Alors cette espèce de flou, ou en tout cas cette manque de définition de la chose, fait que... Ben en face, on trouve parfois du conflit, en fait, mais aussi quelque chose qui passe par d'autres canaux, en fait, pour arriver à ceux qui regardent. Et ça, c'est quand ça arrive, c'est vraiment important.
Ça, c'est la vraie rencontre.
Oui, ben oui, c'est ça.
Merci, Maggie Marin.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Nejma Bouakra avec Maggie Marin. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Jordi Robert, réalisation Laurent Polré, coordination Béline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.